Sous les jupes des films.
Une émission pour cinéphiles compulsifs de Julien Védrenne.
Play it once there. For all time's sake.
Sarah Connor.
My name is Bond. James Bond.
Vodka?
Don't you use olives?
Perfect. Cheers.
Cheers.
Amateur de films de gangsters et néanmoins auditeur de Radio G, bonjour. Bienvenue dans l'émission qui donne envie de revoir les films que vous n'avez pas encore vus. Aujourd'hui, nous allons affronter un gangster peu sympathique en la personne de James Cagney. Ce qui est bien avec ce genre de voyou, c'est qu'à force de déraper, ils finissent mal. Et quand c'est d'après un scénario d'Horace McCoy, l'auteur du magistral On achève bien les chevaux, c'est assuré. Le Fauve en liberté de Douglas Gordon, c'est après une petite présentation des accusés visant à nous faire penser que nous nous embarquons dans un film de procédure judiciaire.
Ladies and gentlemen of the jury, it is my duty to prosecute and your duty to convict or acquit these seven defendants. These seven people are on trial either for murder or being accomplices to the act of murder. What they did gladly and with full understanding. They are evil, all of them, seven evil people. Look at them carefully, because they are your enemies and the enemies of every decent citizen. They are at war with you and always have been and always will be. Should they escape this time, the next victim may be you, or you, or you.
Ils sont donc sept accusés à comparaître devant un procureur. Mais il ne s'agit ici que de second couteau. Il manque le principal accusé, et on ne sait pas encore pourquoi. S'est-il fait la malle? A-t-il été trucidé? Mystère. Ce qui est sûr et dérangeant, c'est que ces personnes, six hommes et une femme, ont été des complices patentés, et que certains représentent la trahison à l'ordre. Jugez plutôt, il y a dans le lot deux inspecteurs de police, un gardien de prison et un avocat. Ils sont présentés par le procureur comme les sept du mal. Et nous allons voir que leurs trajectoires sont particulièrement intéressantes. Le film, après cette introduction liminaire, va se développer en un long flashback. On découvre James Cagney en bagnard qui s'évade alors qu'il travaille dans les champs sous la surveillance de gardes, dont un complice. Tandis qu'il s'évade avec l'aide d'un autre détenu, celui-ci se prend une balle dans la jambe. Il est aussitôt abattu froidement par James Cagney. Si vous en vouliez la preuve, vous l'avez, James Cagney n'est pas un bon gars. Donc, Cagney s'enfuit en voiture avec l'aide de la sœur du fugitif qu'il vient de tuer. Il va taire cette vérité et séduire la sœur, qui, avant l'évasion, était l'innocence même. Elle avait certes des motivations compréhensibles pour faire évader son frère. Elle va maintenant franchement emprunter un virage éthique et s'acoquiner avec le mal avec un M majuscule. À partir de cet instant, le film déroule une trame singulière, celle d'un gangster qui n'a peur de rien et qui va donner sa propre orientation au crime urbain jusqu'à sa déchéance alors qu'il atteint le firmament. Le film date de 1950 et le personnage que joue James Cagney a bien des points communs avec un dénommé Scarface, l'ancien ennemi numéro 1. Il y a deux éléments intéressants dans ce film, dont un qui lui confère une certaine originalité. L'originalité, c'est que Cagney réussit à piéger deux inspecteurs de police pourris en enregistrant à leur insu sur un micro-sillon une discussion qui incrimine leur corruption. Avec l'aide d'un avocat marron, il va pouvoir les faire chanter et les avoir à sa merci. Ensuite, il y a un triangle amoureux entre James Cagney, Barbara Payton, qui joue Holiday, la petite amie officielle qui l'a aidé à s'évader, et Helena Carter, elle c'est Margaret, la fille d'un riche notable de la ville. C'est la femme fatale par excellence. Ce triangle amoureux et les mensonges de Cagney causeront sa perte. Barbara Payton, c'est la blonde, Helena Carter, la brune. La première donnera la réplique à Gregory Peck l'année suivante dans un autre film de Gordon Douglas, Fort Invincible, après avoir débuté sa carrière sous la direction de Richard Fleischer. Un début de carrière prometteur, miné par l'alcool et la drogue, et une mort prématurée à 39 ans en raison d'insuffisance hépatique. On ne peut s'empêcher de penser qu'elle aurait dû avoir une carrière brillante. S'il en faut une preuve, la scène de jalousie avec James Cagney dans la cuisine au réveil de ce dernier suffit pour le prouver. C'est un des moments les plus réussis du film, entre colère et espièglerie.
Coffee.
Perfume. Did you have a good time last night?
Yeah, I went to a movie. First movie I'd seen in 3 years.
Some movie. I hear she has a foreign car.
See, foreign car? What are you talking about?
The woman you and Jinx met the other night. Hasn't she got a foreign car?
I don't know what kind of car she has. I don't even know her name or where she lives. I wouldn't know how to find her even if I wanted to.
Finding her shouldn't be difficult for a bright boy like you. Not for a mastermind like you.
Well, well, you finally made that discovery. Took you a little while, but you finally made it. That's fine.
Would you like some coffee?
Hmm?
Would you like some coffee?
Love it. I like mine in a cup. No cream? How about some sugar?
Oh.
No cigar.
Alors, James Cagney joue dans ce film un véritable gangster mauvais. C'est un rôle à contre-courant pour un acteur en quête de renouveau. Dans les années 1930, il y a trois types de voyous. James Cagney, celui qui est tombé dans le crime parce que la société ne voulait pas de lui. Humphrey Bogart, celui qui est naturellement vicieux. Et Edward J. Robinson, le criminel intelligent en col blanc qui ne se mouille que très peu. Bogart prendra un virage radical et ira vers le film noir. Cagney sera bien en mal de se reconvertir et sombrera quelque peu dans l'oubli.
Mais Julien, qu'y a-t-il sous les jupes de ce film ?
Eh bien Alice, sous la jupe de ce film, il y a une dénonciation évidente d'un crime organisé avec une corruption à tous les étages qui se met, parfois malgré elle, au service d'un gangster psychopathe. Pire que ça, le père de Margaret, homme omnipotent et très riche, est lui aussi quelqu'un à l'intégrité douteuse. Il perçoit en effet qui est réellement Cagney, mais il s'en moque. Il cherche un mari à sa fille qui saura faire fructifier son héritage. Tu noteras qu'il ne figure absolument pas au rang des accusés lors du procès. Le message, là aussi, est clair et net. La justice ne s'attaque pas aux plus puissants. Tu me diras que lui n'a rien fait de répréhensible avec Cagney. C'est vrai. Il est sans conteste du côté des criminels en col blanc, ceux qui s'appuient sur la loi pour la transgresser, à l'instar d'Edward J. Robinson dont j'ai parlé avant. Et puis, il y a aussi un retour sanglant de la morale que je te laisse découvrir. Le Fauve en liberté de Gordon Douglas, c'est donc un film de gangster bien mené avec de très bons acteurs et surtout un James Cagney qui tente de sortir de ses rôles habituels. Et tout ça, c'est disponible en DVD chez Sidonis. La semaine prochaine, nous plongerons dans la Exploitation en compagnie d'Ernest Borgnine, un sacré pecno qui nous propose un merveilleux dimanche à la campagne.
You wouldn't take the truck without asking me first now, would you, Lucy?
C'était Sous les jupes des films. Une production Masque Noir pour Radio G. Musique de générique Toops Baby d'après Alain Souchon, natif de Casablanca.
Sous les jupes des filles, c'est aussi les voix d'Alice Tudou et de Philippe Routier.
To be continued.
Goodbye, Rick.